vous écoute.
Top, c'est parti. Comment ça marche le journalisme
sur Twitter, Instagram?
On est dans un moment de grande confusion.
You are fake news.
La bonne réponse.
Bienvenue à tous, bienvenue à toutes dans l'instant M.
Quand on regarde une série, on sait que ça va se terminer.
Vous voulez me spoiler?
Spoil.
On ne se ferme pas les yeux aussi facilement qu'on se bouche les oreilles.
Il est toujours fascinant d'observer les mots qui reviennent le plus quand disparaît une personnalité. Jacques Chirac était sympa. Voilà ce qu'on entend partout depuis l'annonce de la mort de l'ancien chef d'État. Cet homme qui fut 9 fois député, 7 fois ministre, maire de Paris pendant 18 ans, 2 fois premier ministre et 2 fois président, était forcément un stratège politique, un tacticien. Mais la sympathie revient tellement. Et ce mot fait soudain surgir de l'encre. Oui, l'encre sympathique dans les films d'espionnage est utilisée pour écrire des messages secrets. C'est aussi le titre du nouveau roman de Modiano, à l'encre sympathique. Une encre qui permet de se dérober, de se cacher. Et si cela racontait très bien Chirac? Nous interrogeons ce matin sa relation avec les journalistes, que leurs médias soient d'image, de son ou bien d'encre et de papier. Comment a évolué l'image médiatique de ce destin sans équivalent? Que racontait sa posture médiatique sur son exercice du pouvoir? Et puis tenez, sympathique est aussi un terme médical. On parle du système nerveux sympathique. L'opacité du clan Chirac sur l'état de santé du président est un vaste sujet.
L'instant M. Tous les médias sont sur France Inter avec Dorothée Barba.
Bonjour Béatrice Guret.
Bonjour.
Bienvenue sur France Inter. Vous êtes grand reporter au Monde. Jacques Chirac est le grand sujet de votre carrière de journaliste. Vous lui avez consacré 3 livres et des centaines d'articles. Je recommande vivement aux auditeurs votre long papier dans Le Monde daté d'aujourd'hui. Comment survivre à toutes les modes, aux contradictions les plus inouïes sans un incontestable panache, écrivez-vous notamment. Jacques Chirac, l'ambition d'une vie, c'est le titre de cet article. Chirac aimait-il les journalistes, à votre avis, Béatrice?
Il faut distinguer plusieurs périodes dans la vie de Chirac avec les journalistes. Avant l'Élysée et après, enfin quand il est président de la République. Et il est de notoriété publique que Chirac a eu des relations très 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 sympathiques avec plusieurs femmes journalistes.
Très proches.
Voilà, très proches on va dire. Et puis quand il arrive à l'Élysée, les portes se ferment. Pas tout de suite, moins pendant le septennat que pendant le quinquennat. Mais il continue à voir les journalistes qu'il a toujours vus, ceux qu'il connaît très bien, en qui il a une relative confiance, parce que c'est pas quelqu'un qui accorde sa confiance comme ça. Mais il peut tout aussi bien vous débiter des amabilités sans importance, et il ne vous a rien dit, il vous a enfumé totalement, et il ne s'est rien passé. Pendant le quinquennat, qui est celui que j'ai suivi, écoutez, c'est très simple, on a vu Jacques Chirac en conférence de presse une fois en 5 ans. Le 24 avril 2004.
C'est la communication la plus verrouillée qui soit.
Ah mais la plus verrouillée, c'est incroyable à quel point, pour vous dire, lors de cette conférence de presse, je lui pose une question, je lui demande, il y avait évidemment tous les journalistes de Paris, pas seulement les journalistes accrédités à l'Élysée, et je lui demande pourquoi il n'a pas nommé Nicolas Sarkozy Premier ministre. Je vois que ça le fait sourire. Il vient me voir après, et il engage un embryon de conversation avec moi, et aussitôt, Claude Chirac,
Sa fille,
chargée de sa communication, envoie un conseiller le chercher et pour lui dire qu'il faut qu'il parte et qu'il cesse immédiatement cette conversation. Et Jacques Chirac me dit « Vous voyez, on m'empêche de vous parler ». Alors, naturellement, j'ai pris ça au second degré. Il partait parce qu'il le voulait bien.
Alors, on va dérouler, évidemment, le parcours médiatique de Jacques Chirac. Je me tourne vers la régie parce qu'on devait avoir quelqu'un au téléphone. Voilà, voilà. Je vous propose qu'on s'arrête à un moment très important dans le parcours médiatique de Jacques Chirac. On est en 2005 et le chef de l'État s'essaie à une émission télévisée d'un nouveau genre qui était mitonnée justement par sa fille Claude dans le cadre de la campagne sur le référendum européen. La salle des fêtes de l'Élysée est transformée en plateau télé. Des jeunes entre 18 et 30 ans sont face au président en direct sur TF1 et 2 jeunes animateurs sont là pour distribuer la parole, Jean-Luc Delarue et Marc-Olivier Fogiel.
Monsieur le Président, bonsoir.
Bonsoir, Monsieur Fogiel.
Alors, dans ce premier débat, les jeunes citoyens qui sont là, qu'on a rencontrés ce matin, vont vous interroger, même vous apostropher, comme vous allez le voir, sur les enjeux de la Constitution. On n'est pas là pour poser des questions, éventuellement pour aller un peu au-delà. Alors, c'était Alexandra qui voulait vous poser la première question, une question simple.
Bonsoir Monsieur le Président, bonsoir. Je m'appelle Alexandra, je viens juste d'avoir 18 ans. Je voudrais donc savoir à quoi sert cette constitution, car j'ai vraiment du mal à la comprendre. Et moi je me demande si on en a réellement besoin aujourd'hui.
Bonne question.
Bonjour Marc-Olivier Fogiel.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous sur Inter, aujourd'hui patron de BFM TV. Le procédé était novateur à l'époque, mais ce qu'on a retenu aussi de cette émission, c'est une impression d'immense décalage entre le président et la jeunesse. Est-ce que vous avez été vous aussi frappé par ce décalage ?
Terrible, mais je suis pas le seul à avoir été frappé. Jacques Chirac immédiatement l'a été. Et moi, ce que je retiens finalement, c'est pas l'émission, mais c'est ce qui s'est passé après l'émission. Jacques Chirac a évidemment ressenti ce décalage. Il dit à l'antenne qu'il ne comprend pas les jeunes. Et derrière, mais quasiment un par un, il y avait 200 jeunes dans la salle des fêtes de l'Élysée. Il entreprend de dialoguer avec eux et de essayer de les convaincre. Et le lendemain de l'émission, il me semble que ce sont les obsèques de Régnier. En tout cas, il doit partir à Monaco pour des obsèques. Je pense que c'est pour le prince Régnier. Et son aide de camp vient le voir régulièrement, Claude Chirac aussi, pour lui dire « Monsieur le Président, il faut aller vous coucher ». Et il, là, pour le coup, contrairement à l'anecdote qu'avait racontée Béatrice, il ne cède pas, mais il dit « Mais pas du tout ». Et il convainc les jeunes un à un du bien fondé de la Constitution, le référendum. Et il reste très très tard dans cette salle de l'Élysée. Bien plus tard que ne le souhaitait son équipe, pour finalement réussir ce qu'il avait raté pendant l'émission. Simplement, il arrive à convaincre, ou en tout cas à avoir ce dialogue avec ces 200 jeunes en tête à tête, là où sur une audience nationale sur TF1, pour le coup, il n'a pas réussi à le faire.
Alors ce sont les caméras qui ont rendu l'échange impossible, Marc-Olivier Fogiel.
Ben, je ne sais pas si ce sont les caméras. Je pense que il a réalisé pendant cet échange-là ce décalage qu'il avait sous-estimé, et il lui a fallu du temps pour repartir à la conquête de ces jeunes. Les caméras, certainement. Pour le coup, moi, je suis pas le mieux placé pour en parler, parce que je n'ai pas suivi ça de très près. Mais malgré tout, on sait comment son rapport à la télévision était compliqué pendant un long moment, et qu'il y avait ce décalage entre l'homme qu'on pouvait rencontrer hors caméra, et puis comment parce que les caméras étaient là, il montrait autre chose de lui-même. En tout cas, après, une fois que les caméras se sont éteintes, il était extrêmement convaincant, et c'était pas du tout le même homme, ça c'est sûr. Celui que j'avais rencontré avant, celui que j'ai rencontré pendant ces 2h30 d'émission, après l'émission, était très différent, et était au contact de ces jeunes, mais il mangeait, il buvait et il parlait.
Les journalistes de TF1 à l'époque se sont beaucoup plaints de la mainmise de l'Élysée sur cette émission. Est-ce que c'est Chirac lui-même qui vous a choisi pour co-animer le programme ?
Écoutez, en tout cas, je me suis évidemment posé la question. Je me suis posé la question si c'était Claude Chirac. Moi, en tout cas, à l'époque, donc c'était maintenant il y a 15 ans, c'est toujours passé par Robert Namias. Robert Namias, c'est lui qui est venu me chercher. Moi, à l'époque, j'étais sur France 3, comme Jean-Luc Delarue sur France 2, Emmanuel Chin sur M6. On n'a pas eu de contact direct avec l'Élysée. Et pendant toute l'émission et la préparation, on n'a pas vu Claude Chirac. Après, oui. Et d'ailleurs, depuis, avec Claude Chirac, un lien s'est créé, et elle ne m'a jamais dit, pourtant on se connaît bien maintenant, oui, c'était moi qui étais à la manœuvre. Je me suis toujours posé la question, est-ce que c'était une volonté de l'Élysée ? Moi, ce que m'a dit Robert Namias à l'époque, patron de l'info de la Une, c'est, à l'époque je faisais une émission qui s'appelle « On ne peut pas plaire à tout le monde » sur France 3, on n'a pas ça en magasin à TF1, c'était un autre TF1, on va dire, c'est pas le TF1 de Yann Barthès aujourd'hui, on a besoin de quelqu'un incisif pour bousculer le président et pour le faire sortir de sa zone de confort. C'est la raison pour laquelle on vient de chercher. Je ne sais pas si c'était à l'origine de Claude Chirac. On l'a beaucoup dit. Je ne l'ai jamais su.
Merci beaucoup Marc-Olivier Fogiel. Je vous laisse retourner bien sûr à vos éditions spéciales Chirac sur BFM TV. Merci. Bonne journée à vous. Béatrice Guéret, journaliste au Monde. Vous gardez-vous aussi ce souvenir d'un échec cuisant, cette émission de télé en 2005.
C'est une catastrophe totale. C'est vraiment un ratage médiatique dans les grandes largeurs.
Un cas d'école
parce que Chirac n'aime pas beaucoup la télévision, il faut bien le dire. Il n'aime pas le direct. Il enfin, il prépare très longuement ses discours, écrit à la virgule près, il les répète le dimanche, etc. Et donc, quand il doit faire une allocution, il a son prompteur, tout ça est bien bordé, il n'y a pas de souci. En revanche, dès qu'il bride son naturel, d'ailleurs, ce que racontait Marc-Olivier Fogiel est tout à fait significatif de cela.
Il y a un avant et un après l'antenne.
Quand il... Vous voyez, en fait, la mauvaise idée, c'était de montrer ce président qui était désormais un peu vieux, il faut bien le dire, avec ses fiches où tout était écrit très gros, où tout était souligné au stabilo. Enfin, vous voyez, il y avait une espèce de vieillesse dans tout ça. Et la phrase qui tue, c'est « je ne vous comprends pas ». Donc, voilà.
On est en 2005, hein, Béatrice Guret. C'est aussi l'année où le président fait un AVC, un accident vasculaire cérébral. Vous avez été la seule à écrire dans le journal que cet accident ne l'a pas laissé indemne. Est-ce que ça a été compliqué à tenir, cette position de journaliste ?
Ça a été très compliqué parce que quelques temps après, j'ai fait une double page dans Le Monde qui s'appelait Chirac l'absent, où je racontais qu'effectivement il avait des difficultés
à reconnaître les gens,
qu'il était plus lent, qu'il était plus fatigué, qu'il ne se ménageait pas alors qu'il aurait dû le faire. Aussi, il faut bien le dire. Et j'ai été, comme on dit dans notre jargon professionnel, j'ai été tricarde à l'Élysée pendant des mois.
Persona non grata.
Voilà, on ne m'invitait pas aux petits points de presse avec des conseillers. Je ne suis pas allée à Saint-Pétersbourg alors que j'étais de tous les voyages de Jacques Chirac. Voilà, mais je l'ai assumé tout à fait tranquillement.
Il y a toujours des journalistes à l'Élysée. Aujourd'hui, Béatrice Guret, la salle de presse dans la cour du palais, qui devait disparaître sur décision d'Emmanuel Macron, a finalement été maintenue. C'est une salle que vous connaissez bien. Est-ce qu'à votre avis, la relation entre Chirac et les journalistes raconte, d'une certaine façon, son exercice du pouvoir et la vision qu'il avait de sa fonction ?
En tout cas, elle raconte la vision du pouvoir à l'Élysée. Parce que, évidemment, quand on accède à cette fonction, c'est très différent. Alors, la salle de presse de l'Élysée, moi, je ne la connais pas très bien parce qu'elle est réservée aux agenciers. Mais je trouve, j'en profite pour dire que c'est extrêmement bien qu'elle soit restée là où elle est, que les journalistes puissent voir les entrées et les sorties de l'Élysée. C'est la maison de
C'était une parole rare, en tout cas, à l'époque. On était loin de l'hyper-président. Une manière d'exercer le pouvoir en distillant sa parole.
Alors, Claude Chirac avait théorisé ça avec Jacques Pilon, l'ancien conseiller en communication de François Mitterrand. La distance. C'est-à-dire, il faut...
On est très loin de François Hollande, donc.
On est très très loin de Nicolas Sarkozy, surtout. Puisque c'est son successeur immédiat. Donc ça a été un changement à la fois de génération, de la rupture. Là, pour le coup, elle a été totale sur le plan médiatique. Et Chirac se méfiait de lui-même, à vrai dire. Il y avait eu le bruit et les odeurs qui lui a collé comme le scotch du capitaine Haddock pendant très très longtemps. Et donc, il faisait très attention à ce qu'il disait. Malheureusement, ça a produit une parole assez compassée, assez figée, alors que Chirac, je pense, dans son naturel, n'est pas du tout comme ça.
Cette année 2005 est décidément très riche d'enseignements sur la posture médiatique de Jacques Chirac. Ce sont aussi les émeutes en banlieue en 2005. Et Jacques Chirac met 10 jours à s'exprimer devant la presse. C'est absolument inimaginable aujourd'hui, ce temps de réaction.
Mais c'est inimaginable même à l'époque. Nous, on a tous écrit, mais que se passe-t-il ? Où est-il ? Que fait-il ? Il apparaît donc 10 jours après, avec des lunettes. Il fait un discours formidable. Alors là, je dois dire, on retrouve le Chirac qu'on aime, le Chirac républicain, qui sait parler à la société, qui veut éviter ses fractures, ses ruptures, qui veut réparer son tissu social. Mais c'est beaucoup trop tard. C'est beaucoup trop tard. Je veux dire, le rouleau compresseur est passé. Toutes les télévisions ont montré ces images de banlieue en feu. Enfin, c'est une... c'est un tempo tout à fait décalé.
On remonte un petit peu dans le temps, tenez, 1976, Jacques Chirac est Premier ministre. Ses relations avec Valéry Giscard d'Estaing sont exécrables. 26 août précisément, il convoque la presse à Matignon pour annoncer qu'il s'en va. « Je ne suis pas viré, c'est moi qui pars. » Et c'est une première.
« Je ne dispose pas des moyens que j'estime aujourd'hui nécessaire pour assumer efficacement mes fonctions de Premier ministre. Et dans ces conditions, j'ai décidé d'y mettre fin.
Le Premier ministre apparaît extrêmement tendu. Hein. Il se lève ensuite et quitte la pièce devant les caméras. Mise en scène qui va peut-être inspirer Valéry Giscard d'Estaing en 81 pour son célèbre Au revoir.
La inspiré en tout cas.
Séquence ratée là encore, Béatrice Guret.
Pas du tout.
Non.
Ah non, moi je trouve pas.
Il est nerveux. Hein.
Bah écoutez, il est nerveux, mais ça reste dans l'histoire cette phrase. J'ai décidé. C'est la première fois qu'un Premier ministre met en direct fin à ses fonctions lui-même. Il ne présente pas sa démission au président de la République, comme le veut la Constitution. Il dit « j'ai décidé de partir ». Donc il s'auto-démissionne, si j'ose dire. Il s'est installé dans le bureau de Pierre Juillet, son ancien conseiller. Tout a été débarrassé. Il a mûrement préparé son coup. Et voilà, il dit ces quelques phrases très incisive, d'une voix très tendue naturellement, mais les circonstances l'exigent pour le coup.
Y a-t-il une part de posture dans ce phrasé devenu emblématique, la place qu'il donne au silence et aux liaisons ?
Jacques Chirac a un phrasé extrêmement reconnaissable qui a fait la joie de tous les imitateurs. Je pense que
il a commencé... fait exister aussi sur le plan médiatique.
Oui, qu'il l'a fait exister et puis qui est un peu sa marque de fabrique au fond. Mais je crois que à la fin, il ne pouvait plus parler autrement. Il a commencé à parler comme ça au fil des années.
Et c'est comme un accent qu'on cultive.
Oui, parce que si vous l'écoutez dans les toutes premières années, il est beaucoup plus naturel que cela.
Il faut aborder sa relation avec les patrons de presse, hein, Béatrice Guret. Jacques Chirac était un grand ami de François Pinault, propriétaire du Point. Est-ce qu'il traitait de la même manière les journalistes, quel que soit leur employeur ?
Écoutez, ça, je ne peux pas répondre à cette question, malheureusement, parce que je ne suis pas à la place de personnes qui travaillent au Point. Qui, voilà. Donc, je peux vous dire, en tout cas, que pour ce qui concerne Le Monde, ça a toujours été à la fois extrêmement distant, mais respectueux. C'est-à-dire qu'il y avait je vais pas dire une estime réciproque, c'est vraiment trop dire, mais en tout cas, il respectait le travail que je faisais, même si parfois ça le mettait dans des colères noires. Son entourage s'empressait de dire « mais il ne lit pas les journaux ». Mais évidemment, c'était faux. Et je me rappelle fort bien qu'après un article sur des ministres qui le gênaient dans le gouvernement, mais il ne voulait pas l'admettre, il m'avait apostrophé, toujours dans cette salle des fêtes, et il m'avait dit que j'étais une va de la gueule. Alors ça, j'avoue que c'était assez étonnant. J'ai pas su quoi répondre, hein, d'ailleurs.
Étrange Chirac, tour à tour généreux et cynique, amical et brutal, naïf et rusé, pudique et jovial, mais aussi cultivé et secret. Votre portrait est à lire, Béatrice Guret, dans le journal Le Monde, daté d'aujourd'hui, et c'est un délice. Merci beaucoup et belle journée à vous.
Merci
Ali
à vous.
Rébéi est annoncé. Grand bien vous fasse, c'est juste après la pub.